Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Romy Ménage.
Onde Femmes. Onde Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans notre émission de Remue Ménage dans Onde Femmes. C'est tous les mercredis 17h-18h30. Ensuite à 18h30, vous retrouvez habituellement les informels de Radio Pleine Lune. Mais exceptionnellement aujourd'hui, vous aurez droit à une plage musicale, la découverte d'une nouvelle chanteuse brésilienne. Vous retrouverez les informels la semaine prochaine. Et à 19h, ce sont les coups de cœur de Marjolaine sur les spectacles et les rendez-vous que vous pouvez suivre à Genève ou dans la France voisine. Pour ce qui est du programme de Remue Ménage aujourd'hui, eh bien, nous avons avec nous en direct Anne-Marie Kepeli. Bonsoir Anne-Marie.
Bonsoir.
Qui viendra nous parler du travail de l'association des archives de la vie privée et d'un appel particulier qu'elle lance à certaines femmes. Nous en reparlerons tout à l'heure avec Anne-Marie. Et puis en deuxième partie d'émission, eh bien, nous parlerons de ces femmes qui, bien plus que les hommes, sont attirées par les ateliers d'écriture. Voilà. Alors pour commencer, eh bien, de la musique dans Remue Ménage, Onde Femmes, Radio Zone 93.8 et c'est Catherine Lara, Flammenrock. Espionne.
Quand déjà les lumières s'éteignent, que j'enlève mes habits de scène, quand le monde a quitté la salle, je suis alors une autre femme. Femme, femme. Sans le savoir, vous me croisez. Méconnaissable, espionne, pour personne. Je suis mon agent doux, je sais mon fou de trou.
Catherine Lara dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Mesdames, si vous rangez votre grenier ou votre cave, vos armoires ou vos tiroirs, celles et ceux de vos parents, de vos grands-parents, de vos tantes, et que vous désirez vous débarrasser des vieilles paperasses, surtout ne les jetez pas. Elles sont importantes pour pouvoir comprendre l'histoire de notre région. Dans l'idée de créer une base de sources historiques en se référant à la vie des femmes qui ont traversé ces 100 dernières années, l'Association des archives de la vie privée souhaite réunir des archives manuscrites, de vieilles lettres, des journaux intimes ou autobiographies, des photos ou toutes sortes de documents témoignant de la vie quotidienne trouveront dorénavant un lieu de conservation aux archives de la vie privée. Et ils seront mis en valeur par des historiennes et historiens ayant le souci d'écrire l'histoire des femmes. Alors, pour participer à cette constitution de la mémoire historique des femmes, écrivez ou appelez l'Association des archives de la vie privée, 2 rue de la Tannerie, 1227, Carouge. Je répète, pour participer à cette constitution de la mémoire historique des femmes, écrivez ou appelez l'Association des archives de la vie privée, 2 rue de la Tannerie, 1227 Carouge. Vous pouvez appeler le 022 301 02 52. Alors voilà, tel est l'appel que lance l'Association des archives de la vie privée. Et nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui dans Remue Ménage Anne-Marie Kepeli, qui est une des fondatrices de l'association. Anne-Marie, c'est ça?
Oui, et c'est vrai que nous tenons beaucoup à lancer cet appel pendant l'année où nous fêtons en Suisse le centenaire du premier congrès des intérêts féminins qui a eu lieu à Genève en 1896. Et je pense que c'est pour ça que les 100 ans que les femmes ont traversés nous intéressent particulièrement.
Mais Anne-Marie, le travail de l'association n'a pas du tout commencé avec ce centenaire. Peut-être il serait bon que quand même brièvement vous nous racontiez quelle est la base, l'idée de la fondation de cette association et son objectif en général, pas seulement quand il y a un événement particulier comme celui du centenaire du congrès, le premier congrès féminin en Suisse.
Je pense que c'est essentiellement quelques historiennes avec qui j'ai travaillé pour tenter de commencer à écrire l'histoire des femmes en Romandie, où nous nous sommes butés tout le temps sur l'absence de sources. Nous avions beaucoup envie de savoir, par exemple, d'où venaient les femmes qui tenaient le marché au Mollard. Et nous savions qu'il y avait beaucoup qui venaient de l'autre côté de la frontière. Donc, toutes ces femmes de Haute-Savoie ou du pays de Gex qui venaient faire le marché à Genève, qu'est-ce qu'elles gagnaient, qu'est-ce qu'elles amenaient, etc., etc. Où sont leurs carnets de comptes, par exemple, hein? Ou bien, nous avons voulu savoir plus qu'est-ce qu'elles vivaient ces femmes qui étaient les premières à être dans des nouvelles professions ouvertes aux femmes, comme secrétaire ou téléphoniste au début du siècle, ou aussi les premières institutrices, les assistantes sociales, les premières infirmières. Qu'est-ce qu'elles ont bien pu vivre? Et aujourd'hui, où tout change aussi au niveau de la communication, où tout le monde essaye de se brancher sur Internet, particulièrement, nous sommes intéressés à ces bribes d'écriture de ces femmes, tout ce qu'elles ont pu garder chez elles, dans des tiroirs précieusement, peut-être aussi des correspondances avec des amis où elles ont confié l'une ou l'autre chose quand ce n'était pas le moment le plus gai de leur vie. Donc, pouvoir écrire l'histoire à partir de ces documents me paraît très important pour donner une autre ouverture à la compréhension de l'histoire. Pas toujours la grande histoire avec le H majuscule, mais plein de petites histoires qui font partie de cette grande histoire.
Oui, c'est justement ce que j'allais vous demander, Anne-Marie, parce que c'est vrai que dans la façon de raconter l'histoire, soi-disant avec un grand H jusqu'à aujourd'hui, on a d'abord peu souvent donné de la place aux femmes tout court, et surtout pas à cette histoire privée qui selon vous, alors, décrit très bien l'histoire de notre société, comment les petits faits privés peuvent donner une idée de l'ensemble de la société.
C'est vrai que sûrement nous avons bénéficié des courants nouveaux de l'histoire, de la conception de l'écriture de l'histoire. Notamment Georges Duby en France qui a écrit 5 volumes sur l'histoire de la vie privée. tous ceux qui font l'histoire des mentalités, ceux et celles qui ont écrit l'histoire d'en bas, qui ont commencé à écrire l'histoire des femmes, ont une autre approche de sources historiques. Et pour nous, dans les archives de la vie privée, nous avons ce souci de prospecter et de mettre en valeur ces nouvelles sources pour l'histoire.
Alors, très concrètement, Anne-Marie, il faudrait essayer de retrouver ces documents. Mais je suppose que c'est pas si simple que ça, parce que lancer un appel par voie des ondes, vous l'avez fait par la voie des journaux, etc. Vous essayez de vraiment faire un appel le plus large possible. Mais est-ce que vous observez déjà quelles ont été les réactions à votre appel? Est-ce que vous observez déjà des réticences? Les gens craignent ou n'ont pas envie de donner ces documents si parfois intimes?
Par exemple, il y a eu deux promesses de grands fonds de famille. C'est des tiroirs et des armoires entières de grand-mères qui ont stocké tout ce qu'elles avaient tenu ensemble dans leur famille. Et le moment où nous sommes entrés en négociation avec les descendants, avec la discussion qu'on a menée ensemble avec eux, ils ont pris conscience de la valeur de tous ces papiers et ils sont devenus plus prudents. Qu'est-ce qu'ils vont garder pour eux et qu'est-ce qu'ils vont nous livrer, évidemment. Mais je trouve que c'est justement une partie du travail qu'on peut faire, que les gens soient conscients que leur vie et leurs papiers, qui sont aussi une part de leur vie, aient un sens et une signification. Qu'elles le gardent chez eux et qu'ils nous le disent, qu'ils le possèdent, c'est magnifique. Nous voudrions surtout pas que des choses disparaissent, que les gens gardent, s'ils peuvent, du point de vue espace, leur propre mémoire. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses. Mais je ne voudrais pas, comme je l'ai souvent vécu aussi en travaillant avec des vieilles personnes célibataires qui sont dans des tout petits apparts, à un moment donné, quand elles sont obligées, peut-être parce qu'il n'y a plus personne de la famille, d'aller dans une maison de personnes âgées, que leur ami ou elle-même le mette à la poubelle ou le jette au feu parce qu'elles ne savent plus et puis elles pensent à un moment donné que tout ça, ça vaut rien.
Comme vous disiez, Anne-Marie, en parlant de ces deux familles qui vous ont dans un premier temps proposé de sonder leur richesse, de leur grand-mère, ils ont été tout à coup plus prudents. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? C'est par rapport au contenu ou par rapport à, pour eux, la richesse de ce qu'ils détiennent?
Non, pas par rapport au contenu, je pense que par rapport à un don définitif, à des archives telles que les nôtres. Et je pense que peut-être il y a un enthousiasme vraiment qu'on les prenne au sérieux. Et je trouve ça formidable. Et si on a pu redonner une valeur à leur propre conscience historique de leur famille ou de quelqu'un de leur famille, je trouve ça déjà très bien. Et nous pouvons aussi fonctionner comme banque de données, entre guillemets, et dire à des historiens ou des historiennes qui s'intéressent à ce type de papier que là et là et là, il y a des familles qui ont un souci de préserver leur mémoire et en ajoutant l'une et l'autre mémoire, je pense que ces papiers vont commencer à prendre un sens.
Anne-Marie, j'ai bien compris ce que vous nous disiez tout à l'heure, la valeur par exemple d'un livre de comptes, etc., dans le cas de comprendre les échanges commerciaux, qui assumaient quoi, les responsabilités des femmes dans certaines professions, etc. Mais que pouvez-vous faire d'un journal intime, par exemple? En quoi un journal intime peut être partie prenante d'une page d'histoire d'une ville, d'une région ou d'un pays?
Un seul journal intime, surtout s'il a été tenu pendant longtemps, peut nous donner une clé sur la manière dont une fille ou un garçon a été socialisé. Souvent, on note dans un journal intime des choses à des moments clés de sa vie et à des moments comme le premier amour, le jour du mariage, le jour de la naissance d'un enfant. Puis souvent, là, ça s'arrête à un moment parce que la femme est occupée plus longtemps par autre chose. Et souvent, ils reprennent. J'ai des amies allemandes qui ont fait une comparaison de journaux intimes du 19e et du 20e siècle qui l'ont utilisé comme une base pour écrire tout un grand chapitre de l'histoire de l'éducation des filles.
Ah oui, évidemment, ça, on peut voir soit leur réaction à ce qu'on leur, on leur impose, ou au contraire, bon, le, ce qu'elles se construisent dans leur tête par rapport à ce qu'elles seraient censées vivre.
Et un journal intime est aussi écrit à partir d'une subjectivité. Et je pense c'est très important de prendre en compte aussi l'apport subjectif d'une personne, hein, comment elle l'a vécu. Alors on est moins tenté de calquer un système d'interprétation de l'extérieur sur un vécu quand on a des documents de première main. Hein. Souvent, on a pu écrire des bouts d'histoire des femmes parce qu'on avait des chroniques de greffiers au tribunal quand il y a eu une bagarre dans un couple ou par rapport à une histoire économique sur le marché, quelqu'un qui n'aurait pas payé ses droits, etc. Mais de comment la personne l'a vécu, hein, de première main, très souvent, on n'a pas de traces. Et c'est pour ça que les écrits privés sont très importants. De comment une femme, pendant les années de la guerre, a tenu ses comptes pour son propre ménage. C'est important. Tout à coup, elle a peut-être été serrée et elle a tenu des comptes. Si elle a passé encore par les cours ménagers que certaines associations féminines ont offertes, d'autant plus. Alors, on peut aussi voir comment a été repris par les femmes elles-mêmes ce que, par exemple, les associations féminines ont lancé à un moment donné.
Et puis, vous avez l'air de dire, avec les archives de la vie privée, que par exemple, au biais de ces écrits privés ou de ces documents privés, on arrive finalement et même constituer l'image d'une région. Il peut se distinguer une caractéristique d'une région ?
J'ai pas dit l'image d'une région, mais j'ai dit l'histoire d'une région. Mmh. Je pense que certaines femmes qui ont une même type d'insertion professionnelle, si par exemple j'imagine des institutrices à la campagne du côté Savoie ou du canton de Vaud, ça serait intéressant de comparer si vraiment c'était si différent. Je pensais la région est importante par rapport au futur de l'Europe, hein, et qu'on veut aussi décoller d'une histoire nationale. Je pense que c'est très important au niveau culturel de prendre en compte une région. Et Genève a toujours été avec des frontières ouvertes et je pense que c'est important de prendre aussi ça en considération. Le Jura également. Hein, je pense que c'est important aussi que cet appel soit entendu avec et qu'on puisse collaborer avec des gens de l'autre côté de la frontière.
Alors, justement, collaborer, ça c'est un autre aspect de votre travail, Anne-Marie, parce que l'idée c'est aussi d'enrichir le travail des historiens et historiennes en général, pas seulement ceux de votre association, qui eux sont, ou celles surtout, parce que vous êtes des femmes qui s'interrogeaient particulièrement sur cette façon d'écrire l'histoire. Mais il y a aussi essayer de pousser les archivistes, les historiens partout, de s'intéresser à ces documents-là pour enrichir un patrimoine historique.
Tout à fait. Moi, je pense que beaucoup de gens ont une réticence à vouloir considérer leur papier important et n'apportent rien aux archives. C'est pour ça, la plupart du temps, dans les grandes archives, vous avez les papiers des grandes familles.
Hein ? Vous voulez dire par là, Anne-Marie, que les archivistes, eux, ne cherchent pas, ils attendent qu'on leur amène ?
Oui, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de faire de la prospection. Et peut-être c'est ça où nous sommes particulièrement attentifs pour le moment à faire de la prospection, parce que nous avons aussi cette conscience que toute une génération est en train de s'en aller. Et nous aimerions beaucoup garder trace de cette génération qui s'en va. Et aujourd'hui, tout va très vite et il y a énormément de kilomètres de documents déjà dans nos archives. Et je pense que si les plus jeunes archivistes soient plus susceptibles aussi à accueillir des papiers dites moins significatifs et moins signifiants, pour nous, pour pouvoir écrire l'histoire d'en bas et l'histoire de ces gens qu'on dit non significatifs, comme les femmes souvent, hein, c'est très très important.
Mais Anne-Marie, alors est-ce que dans les faits, les archivistes qui n'appartiennent pas à l'association Archives de la vie privée sont sensibles à votre démarche? Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec eux et est-ce qu'ils sont intéressés à soutenir votre effort dans ce sens-là?
L'autre jour, à cause de notre appel à tous les bureaux de légalité, par exemple, l'archiviste de la ville de Lausanne a téléphoné tout de suite, a dit « J'ai reçu votre appel à travers le bureau de légalité de la ville de Lausanne. Évidemment, nous sommes intéressés à collaborer, à vous donner un soutien moral où nous pouvons et concret également. On va se rencontrer, on va voir comment concrètement on va pouvoir collaborer. » Je pense que c'est très important, même si nous, nous sommes basés à Carouge, que les gens des autres cantons et du côté France n'aient pas peur qu'on va ramener tous ces papiers à Genève. Je pense que nous sommes tout à fait ouverts à accueillir tous les papiers qui nous viennent, mais nous sommes aussi très sensibles à négocier avec les archivistes des différentes archives existantes s'ils ne peuvent pas accueillir, si les personnes ont le désir de donner les archives chez eux, ce type de papier.
Alors, très concrètement, Anne-Marie, qu'est-ce que l'association Archives de la vie privée va faire de ces documents quand elle en aura réuni, soit elle-même, soit par le biais d'autres archivistes? Est-ce que l'idée, c'est de le maintenir à disposition pour, par exemple, de futures expositions, de futures publications? Vous-même, est-ce que vous allez en faire une? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de spécial lié au congrès de septembre 1996, puisque c'est à ce moment-là qu'a eu lieu le fameux premier congrès?
Oui, je pense que il y a une fois un stock de papier qui est là, qu'on peut vraiment aussi le répertorier sous en forme d'un catalogue, et soit des chercheurs et chercheuses, soit des journalistes, soit des femmes qui s'intéressent à l'une ou l'autre aspect ou l'une ou l'autre canton pourraient y puiser comme dans tous les autres archives. Mais je pense aussi que nous avons un parti pris de mise en valeur nous-mêmes. J'espère pouvoir écrire moi-même encore un ou deux chapitres de l'histoire des femmes de Suisse romande. Notamment, j'ai un projet d'écrire l'histoire des institutrices, de la formation des institutrices dans le 19e en Suisse romande. Donc, je serais toute heureuse de savoir que des institutrices ont tenu leur journal de travail, ont tenu des correspondances, ont garder des livres de comptes, de comment elles ont vécu. Et peut-être dans la génération plus jeune, il y a aussi des films d'amateurs, hein, ou des albums de photos. Je pense que j'ai aussi remarqué en visitant deux, trois familles que les femmes souvent ont tenu peut-être pas des vrais journaux intimes, mais une sorte d'agenda personnel de qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Alors c'est des agendas imprimés où ils écrivent. Et pour moi, c'était nouveau. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait le journal intime classique, mais il y a aussi ce jour au jour, cet agenda du jour au jour qu'on écrit. Et je pense qu'il y en a. Il y en a un peu partout. Et ça nous intéresse, pas seulement chez les institutrices, mais vraiment chez tout le monde.
Alors, il y a une dernière question que j'aimerais vous poser, Anne-Marie. C'est que, est-ce que c'est intentionnel que vous vous adressez en particulier aux femmes? Bon, c'est clair que votre association a toujours eu le souci de raconter l'histoire au travers du regard des femmes, parce qu'elles enrichissent aussi cette grande histoire, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais est-ce qu'elles ont un rôle particulier à jouer dans le cas qui vous intéresse?
Moi, je pense, parce que au 19e siècle, la femme bourgeoise par excellence était celle qui était censée investir le privé. Les hommes investissaient le public, les femmes le privé, si on veut être un tout petit peu schématique. Et je pense que cette dichotomie a amené aussi à ce que les femmes bourgeoises, plus spécifiquement, ont investi ce type d'écriture. Hein? Et les femmes du début du siècle ont encore largement baigné dans ce type de conception de la femme, que c'est elle qui soit au foyer, qui tienne ensemble. Mais les premières femmes aussi au début de ce siècle qui ont ouvert une brèche et qui sont parties et qui ont exercé une première profession, elles aussi, j'espère qu'elles ont gardé du papier, qu'elles aient aussi gardé une trace. Et... je pense que dans des plus vieilles archives, on trouve aussi beaucoup d'écrits privés des hommes. Mais de plus en plus, avec cette dichotomie de la femme bourgeoise dans le privé et l'homme bourgeois dans le public du 19e, ces frontières-là sont devenues importantes. Et c'est pour ça qu'on s'adresse particulièrement aux femmes. Mais dans les archives de la vie privée, nous sommes tout heureuse de accueillir aussi des écrits des hommes, et je pense que c'est très important, mais je suis presque sûre qu'on aura beaucoup de choses des femmes parce que il y a cette donnée historique de fait.
Mais vous avez souvent cité la génération de nos grands-mères, Anne-Marie. C'est donc qu'effectivement, il faut que nous, femmes qui aujourd'hui entendons votre appel, vous, chères auditrices, qui êtes certainement pas majoritairement des grands-mères, que vous fassiez le pas de parler à vos grands-mères, c'est ça ?
Oui, j'aimerais beaucoup que des femmes fassent du bouche à oreille chez leur tante, leur grand-mère, leur mère, leurs amis d'une autre génération, qui pourraient être aussi tout simplement devant ce fait de devoir déménager dans une maison de personnes âgées ou qui s'en vont. Et on a sur des bras des fois de ces merveilleuses liasses de papier et puis on ne sait pas quoi faire. Alors pensez aux archives de la vie privée.
Et donc fouiller, parce que j'imagine que ce n'est pas évident, ce n'est pas exposé en disant voilà, ça c'est l'objet précieux de ma vie, il va falloir fouiller dans les cartons, dans les tiroirs, etc. Des fois on fait des découvertes incongrues, Anne-Marie ?
Oui, par exemple, il y a une femme qui fait les puces, qui nous a appelé un jour. Elle nous a amené un dossier où il y avait des diplômes d'un monsieur et d'une dame. C'était un frère et une sœur, les deux universitaires. Il y avait leur diplôme universitaire dedans. Et il y avait un très, très beau petit cahier écrit à la main avec des jolis dessins. Et c'était une petite publication que les écolières, à la fin du 19e siècle, ont produite à Carouge. Ça s'appelle Le Caroubier. Très beau. Toute une culture d'écolières qui est tenue entre quelques feuilles.
Anne-Marie, en tout cas, merci beaucoup d'être venue nous détailler cet appel que vous lancez. Je crois qu'on se retrouvera, j'espère bien, en septembre pour ce fameux centenaire du premier congrès féminin en Suisse. Je propose à nos auditrices et à nos auditeurs de, pendant le temps d'un disque d'une chanson de Lucide Beausonge, d'aller absolument s'emparer d'un crayon et du papier. Et après le disque, nous vous répéterons l'adresse de l'association et son numéro de téléphone. Comme ça, cette fois-ci, vous ne pourrez pas dire que nous sommes allés trop vite. À tout de suite, après Lucide Beausonge.
Une femme allant sans peur, forte et toujours pleine d'ardeur, pleine d'un courage idéal, où elle n'a pas peur d'avoir mal. Et tout ce qu'elle m'a donné, qu'elle juge comme bon à jeter, à son ventre qui m'a porté, je me suis à jamais soudée. C'est une femme alors sans peur, solide, plus forte qu'un vainqueur, pleine de confiance vitale, qu'elle juge tout à fait banale. Et tout ce qu'elle a combattu, lutté pour qu'un jour soit venu, sortant mon futur du sommeil, c'est mon passé qui l'a. passion brutale qu'elle juge comme tout à fait normale. Mon corps à son corps confondu, mes yeux d'enfant l'ont toujours vu. Telle une reine, moi son vassal, mon imago, mon idéal. C'est une femme à l'ange sans peur, si grande qu'on la croirait sans cœur. Une prêtresse sans bien ni mal, gardienne des clés de mes vestales. Elle est tout ce que j'aime aujourd'hui et tout ce que